protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.
Bonjour à tous, protestants au pluriel, Yolande au micro, pour vous faire découvrir la richesse du protestantisme français. En effet, nous allons à la rencontre des églises et membres de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le président de la Congrégation de l'Armée du Salut et de la Fondation de l'Armée du Salut. Son président, le colonel Jacques Donzé. Alors, bonjour colonel Jacques Donzé. On va commencer par être très simple. Comment vous vous définissez en quelques mots votre organisation et vous-même, votre rôle au sein de ces deux organisations, puisqu'il y en a deux?
Oui, alors bonjour. Je me définis, je suis officiellement le supérieur de la congrégation, ce qui est un tout petit peu spécial pour moi, et je crois que l'Armée du Salut était la première congrégation protestante. Et quand on dit congrégation en France, on nous voit un peu dans un couvent, et donc c'est un petit peu spécial. Et je suis le président de la fondation. Pour l'Armée du Salut, je suis colonel, donc des fois je sais plus très bien qui je suis. Donc j'aime assez bien qu'on m'appelle Jacques, en fait. Et Dieu m'appelle Jacques et il m'a jamais appelé colonel, lui.
Et quelques chiffres donc sur la congrégation, donc sur le côté église,
oui. Mmh.
Et puis sur la fondation, les deux choses sont séparées, elles sont, comment ça se passe?
On agit dans des cercles différents qui font qu'on n'a pas les mêmes activités et peut-être pas la même manière de les apporter. Nous sommes en France dans le pays dans lequel il y a ces principes de laïcité qu'on respecte parfaitement on va pas pouvoir faire de l'évangélisation de la même manière dans un CHRS que dans la rue ou dans une église.
Alors la date de votre création, bon, on sait que c'est pas récent, vous êtes une institution déjà assez vieille, si on peut dire, enfin assez âgée. C'est quelle date?
Alors 1865 en Angleterre,
ouais.
Et 1881 en France. Donc le fondateur s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire en France. Et il s'est dit quelle est la ville, la pire ville de France, quel est le pire quartier de France. Et il a envoyé sa fille de 22 ans et deux autres jeunes filles.
Et c'était quoi la ville la pire de France?
C'était Pigalle. Donc
ah oui,
Paris, Pigalle,
oui,
voilà.
Oui,
donc il a envoyé sa fille de 22 ans et deux autres jeunes filles, une de 19 et l'autre de 18 ans. Donc juste pour rappel, qui n'étaient pas majeures à l'époque en France.
Oui, elles n'avaient pas peur.
Et
lui non plus n'avait pas peur pour ses filles.
Absolument. Enfin, oui. C'était totalement irraisonnable. Mais c'était un peu le style de la maison.
D'accord. Et alors, vous avez combien d'églises locales?
Alors, on a 23 églises locales en France.
Ouais.
Essentiellement nord, est et sud-est. On est très peu présent tout du côté ouest. Donc un petit
Pourquoi
peu là où le protestantisme s'est développé, nous nous sommes développés, là où le protestantisme n'a pas réussi à s'implanter ou pas bien, nous n'y sommes pas non plus, pas beaucoup.
Et de membres?
Alors on a à peu près 1000 soldats, c'est donc des gens qui sont des laïcs, mais qui ont pris un engagement, une déclaration de foi et un engagement par rapport à l'Armée du Salut et qui portent l'uniforme lors des activités. Et puis après, il y a, je sais pas, peut-être 5 ou 10 000 personnes qui gravitent autour des postes de l'Armée du Salut, mais membres 1000.
Et dans le protestantisme, alors quelle est votre singularité? Parce que vous avez quand même une singularité.
Génétiquement, nous ne sommes pas issus du protestantisme puisque nous sommes issus des églises méthodistes qui elles-mêmes sont issues de l'église anglicane. Mais aujourd'hui, on est parfaitement intégré dans le protestantisme. Ce côté militaire et hiérarchique qui n'est pas tout à fait dans le style protestant non plus. Et puis après, nous ne pratiquons aucun sacrement, ce qui est une spécificité aussi. C'est le fondateur s'était positionné en disant, mais finalement, il y a pas mal de divergences sur ces sacrements. Il y a beaucoup de gens qui se disent, je suis baptisé, donc je suis sauvé, et de dire, nous croyons que la seule chose qui nous sauve, c'est notre relation avec Jésus-Christ, de se positionner comme ça aussi, et aussi de se positionner plus en mouvement qu'en église.
C'est ça, ouais. Je me souviens avoir lu ou avoir entendu que l'Armée du Salut reprochait tous les débats théologiques autour du baptême de la Sainte-Cène, et disait, pendant ce temps-là, on ferait mieux de nourrir les gens et de s'occuper d'eux. Donc, ça remonte à loin, cette...
Oui, ça remonte à la fin du 19e, et c'est une décision provisoire.
Et alors, vos croyances essentielles, vos convictions fondamentales, est-ce qu'on peut... D'abord, vous allez nous les donner, puis vous allez nous dire si on peut en débattre au sein de votre Église.
On en débat continuellement. On en débat continuellement. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on est quand même sur des doctrines, des positions éthiques que nous essayons d'avoir au niveau mondial. Et si vous êtes au Japon, au Chili ou en Hollande, on n'a pas forcément les mêmes cultures, et donc c'est des grandes discussions chez nous. Le fondateur était assez bon sur les slogans, et un des slogans qui est probablement le plus connu, c'est « Soupe, savon, salut ». Et c'est vraiment cette idée. Alors, il a aussi dit, on peut pas dire à quelqu'un que Dieu l'aime quand il a l'estomac vide et froid aux pieds. Mais vraiment cette notion que Dieu s'intéresse pas juste à notre âme, il s'intéresse à notre âme, à notre situation sociale, à notre situation physique, à nos besoins de tous les jours. Et c'est vraiment une approche, je ne sais pas si on utilisait le mot à l'époque, mais une approche holistique de l'Évangile qui nous tient vraiment à cœur.
Vous pouvez définir holistique pour les auditeurs qui seraient un peu perplexes.
Merci pour cette question.
qui couvre
l'ensemble de ce qu'est une personne, son corps, son âme, son esprit, et pas juste un petit bout de nous-mêmes. Et puis après, on a aussi beaucoup été présents côté des personnes défavorisées, et ça fait vraiment partie de notre ADN, et notre naissance est venue de là aussi, puisque notre fondateur on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il choisisse entre ses bons paroissiens et les gens de la rue qui avaient aucune culture religieuse, aucune éducation, qui sentaient mauvais. Et puis sa femme l'a fait choisir.
Alors, on va voir la deuxième partie, donc la radioscopie, si on peut dire, de votre Église et puis de vos deux mouvements, le concret. Alors, la forme du culte dans votre Église, parce que vous êtes une congrégation, donc vous avez des cultes.
Oui.
Est-ce que c'est plutôt assez sage? Est-ce que c'est animé? Est-ce que les gens participent? Comment ça se passe, un culte?
Alors, nous n'avons pas de liturgie. Mais nous avons des habitudes. Après 105 ans, on a quelques petites habitudes. Le côté musical est assez important. On met de l'importance à ce qui est de la joie dans nos cultes aussi. En France, ils ont beaucoup évolué ces 20 dernières années parce qu'on a bénéficié d'une très forte immigration, et donc on a une proportion d'Africains et d'Haïtiens importante qui viennent avec leur manière souvent un peu plus vivante de vivre le culte. On a généralement de la place aussi pour participation spontanée, donc un temps de témoignage où les gens peuvent partager ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur durant leur semaine, et une prédication que nous souhaitons assez simple et concrète.
Alors, on a vu ce que vous apportez à la société, aux gens qui viennent vous voir, à vos fidèles. Qu'est-ce que votre Église, qu'est-ce que votre mouvement apporte de spécifique à vos fidèles?
Alors, on est sur deux axes. Et on l'illustre aussi avec nos deux S qu'on a sur l'uniforme, qui disent sauver et servir, mais aussi, et c'est moins connu, salut et sanctification. Donc c'est vraiment cet aspect de la nécessité d'une conversion personnelle, et d'une vie qui se veut aussi proche et conforme à ce que Dieu attend de nous, une vie pure et voilà, c'est un des axes importants pour nous.
Alors, on a vu l'Église, la forme du culte. Bon, on l'a vu assez rapidement, mais on va passer à ce qui fait votre spécificité, qui est ce pourquoi vous êtes connu, c'est vos actions dans la fondation donc de l'Armée du Salut. Alors, pour les auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais enfin, qui n'ont jamais entendu parler de l'Armée du Salut, de la fondation, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, on fait un peu tout, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas très connu. Et notre spécialité, c'est d'être présent un peu sur tous les champs. Ce qui nous donne aussi un regard assez vaste, assez général. Mais nous avons deux grands axes. Le premier, peut-être c'est là qu'on est le plus connu, c'est l'inclusion. Donc, accueil des SDF, des migrants, des personnes en difficulté. Et puis l'autre axe, c'est le médico-social, avec un axe sur l'enfance, avec un axe sur les EHPAD aussi, et sur le handicap.
Et votre relation aux autres églises, aux autres, est-ce que vous considérez que Dieu, on le trouve seulement en Christ ou est-ce qu'on peut le trouver ailleurs? Comment vous vous situez par rapport aux religions différentes, non chrétiennes, chrétiennes, catholiques, par rapport aux incroyants?
Alors, une de nos priorités, c'est l'inconditionnalité de l'accueil. Quelles que soient les convictions, les opinions des gens, ils seront les bienvenus chez nous, autant à la fondation qu'à la congrégation. Après, nous croyons que le salut se trouve en Jésus-Christ, ce qui ne signifie pas que ceux qui pratiquent d'autres religions sont plus stupides que nous ou sont pas très intelligents. Nous entretenons plutôt des bonnes relations d'une manière générale. Dans nos établissements, nous recevons beaucoup de gens qui sont d'autres religions et on les accompagne au mieux possible dans le respect de ce qu'ils sont. Et nous ne nous donnons pas le droit de dire aux gens ce qu'ils devraient penser.
Mais vous leur proposez un enseignement ou une découverte du protestantisme, enfin de votre mouvement.
Alors, quelque chose qui nous tient très à cœur, c'est que dans chaque établissement, nous ayons un accompagnement spirituel. Et l'accompagnement spirituel que nous offrons est un accompagnement chrétien. Il est assuré par des officiers, par des pasteurs, par des bénévoles, mais aussi par quelques curés. Et puis, si dans notre établissement, quelqu'un nous dit qu'il est musulman et qu'il voudrait pouvoir participer à quelque chose de musulman, on va voir comment on peut l'accompagner. Mais notre action est une action chrétienne.
Et dans vos résidents, enfin dans les, oui, dans vos bénéficiaires, bon, vous avez dit, il y a des gens de différentes sociologies, de différentes religions. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des troubles entre eux ? Est-ce que c'est compliqué à maintenir la paix, une sorte de fraternité ? Quand on n'a plus rien, est-ce qu'on n'est pas...
Alors j'aurais envie de dire, ça se passe la même chose que partout ailleurs dans le monde. Donc la plupart du temps, ça se passe bien. Et puis de temps en temps, on peut avoir une ou deux personnes qui sont dogmatiques et qui pensent être les seuls à être dans le vrai. On a eu, mais c'est quelque chose de très marginal, mais on a eu dans une maison de jeunes quelques radicalisations par un salarié. Ça s'est passé en l'espace d'un mois. Donc très très rapidement. Donc on doit intervenir. Enfin, on a de toute façon un certain nombre de choses que la loi nous impose de faire dans des cas comme ça. Et c'est des choses qu'on ne peut pas qu'on peut pas accepter, mais on n'est pas à l'abri de choses de ce genre-là parce que les gens qui sont chez nous, c'est le reflet de ce qu'on trouve partout ailleurs dans la société, quoi.
Vous avez parlé des deux filles du fondateur, oui. Donc qui avait été envoyé un peu au charbon, hein, faut le dire. Votre église a eu depuis toujours des femmes.
Oui.
Et maintenant, comment ça se passe la place des femmes au sein de l'armée du salut? Vous avez une forte présence féminine. Comment ça se passe?
Parmi nos employés, on a à peu près 3000 employés. Et dans le secteur social, c'est une grande majorité de femmes. Mmh. Ça n'a rien à voir avec l'armée du salut, ça.
Oui.
Mais à la fondation, de mémoire, 70% de nos salariés sont des femmes. Et puis, au niveau de nos officiers, donc de nos pasteurs, on a une petite majorité de femmes. Les femmes, depuis l'origine de l'armée du salut, ont accès à toutes les positions et ont accès à la chair de la même manière que les hommes, sans aucune discrimination. Les officiers sont la plupart du temps, ceux qui sont mariés, officiers en couple. Et je pense que c'est aussi une vraie richesse d'avoir ce double regard les femmes puissent s'adresser à une femme, que les hommes puissent s'adresser à un homme. Je pense que c'est une richesse que nous avons. Et oui, toutes les positions sont accessibles aux femmes. Si je veux être tout à fait honnête, la réalité, c'est que dans les hautes responsabilités, on a un peu plus de messieurs.
Comme partout.
Oui, souvent parce que au cours de leur carrière, ils ont été un peu plus visibles.
Mm.
Donc c'est pas du tout un choix volontaire, mais c'est parce qu'on a les circonstances de vie, les circonstances de famille ont fait que leurs qualités ont souvent été plus mises en évidence que celles de leurs épouses.
Et les violences sexuelles, est-ce que vous avez des cas? Est-ce que vous luttez contre? Enfin, est-ce que vous avez réfléchi pour endiguer ce problème?
Alors, c'est un vrai sujet. Nous avons à la Fondation depuis une année une personne qui est dédiée à ça. Il faut savoir que les femmes qui ont un parcours de rue ont subi à plus de 90% des violences. Donc celle qui n'a pas subi de violence est plutôt l'exception. Donc on a vraiment quelqu'un qui travaille ce sujet avec nos résidents, avec nos salariés et du côté de la congrégation aussi. Je pense que notre équilibre homme-femme nous a un petit peu protégés, mais on peut pas se cacher là derrière pour dire chez nous il s'est jamais rien passé. Voilà.
Et alors, bon, pour conclure cette partie sur le concret, qu'est-ce que vous apportez finalement à la société, selon vous?
Alors, nous n'apportons rien que personne d'autre n'apporte. On est partenaire avec d'autres églises sur le côté spirituel, avec d'autres très bons acteurs sur le secteur social. Notre spécificité, c'est peut-être d'être justement sur les deux secteurs. J'espère qu'on apporte encore le salut à la société qui nous entoure, qu'on leur accorde du temps et de l'écoute, ce qui est devenu une denrée rare. Et puis, on apporte un toit, on apporte un accompagnement, on apporte pas des solutions, on essaye d'accompagner les gens dans leur parcours pour qu'ils trouvent eux leurs solutions et leur chemin, ce qui est certainement un changement par rapport à ce qui se faisait il y a une cinquantaine d'années où nous savions évidemment ce qui était bon pour l'autre et qu'on le mettait dans la petite boîte de ce qu'on considérait qui était bon pour lui. Et aujourd'hui, beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus intéressant d'accompagner les gens dans leur parcours, sachant qu'il y a des gens qui vont peut-être trouver ou retrouver une place dans la société, et puis des gens qui vont qui vont rester toujours un peu en marge et qu'on va essayer d'accompagner le mieux possible.
Alors, on va voir vos défis, vos projets. J'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que l'uniforme que vous portez, est-ce que ça trouble les gens? Est-ce qu'ils vous identifient avec l'armée du ministère de la Défense, que vous n'avez aucun lien, je suppose? Comment ça se passe, ça, dans le regard du public?
J'ai souri parce que j'ai une grande discussion avec une dame hier qui avait beaucoup de peine à comprendre qu'on soit pas effectivement une part du ministère de la Défense. voilà, il arrive qu'on montre un billet dans le train, ou qu'on me pose des questions auxquelles je n'ai aucune réponse parce qu'on pense que, puisque j'ai un uniforme, je suis de la SNCF ou je sais pas quoi. Donc oui, ça interpelle, c'est très confortable à un certain nombre d'endroits parce qu'on n'a pas trop besoin de se présenter et on voit tout de suite qui on est. Et puis autrement, ça donne des occasions de discussion parce que les gens nous demandent, mais...
Pourquoi
est-ce que vous êtes déguisé? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Et c'est des belles occasions d'échange. Ouais.
Alors, dans les défis, dans les projets, d'abord dans les défis, est-ce que vous avez des préjugés qui vous collent à la peau? Est-ce que vous considérez qu'on vous considère mal ou qu'on ne sait pas trop ce que vous faites? Enfin, est-ce qu'il y a des préjugés?
Alors, qu'on ne sait pas trop, des préjugés, je pense beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on était classé parmi les sectes.
Vraiment?
Vraiment, oui, vraiment. Sur un rapport du gouvernement des années 80, mais c'était pas unique à la France. C'est les débuts de l'armée du salut. Enfin, il y a des gens qui sont allés en prison, il y a des gens qui sont morts. Enfin, c'était de la vraie persécution. Donc on a fait un très grand chemin depuis 150 ans. Aujourd'hui, on est plutôt bien considéré, bien accepté dans le milieu ecclésial, dans le milieu social. Le préjugé qui nous reste, c'est qu'on est là que pour les pauvres. Et ça peut être un handicap avec nos églises que des gens disent « mais je ne veux pas aller à l'armée du salut parce que je ne suis pas pauvre ».
Oui. Et avec la laïcité à la française, qui est quand même assez rude, ce n'est pas un problème pour vous?
Alors c'est un problème quand les gens considèrent que la laïcité, que les règles du service public s'appliquent à l'ensemble de la société, et on doit parfois expliquer, parfois même à nos salariés, on doit leur expliquer, la laïcité c'est pas de religion, c'est la liberté pour chacun de l'exercer, c'est pas de prosélytisme abusif, mais on peut partager notre foi dans le respect. Alors oui, on est peut-être plus exposé que d'autres parce que dans le champ du social, c'est un sujet, mais je le vis plutôt bien.
Mais parlez que vous étiez un yéti. Alors, vous n'avez pas quand même une tête de yéti. Vous pouvez expliquer ce que c'est que le yéti?
C'est parce qu'un collègue dit « Tout le monde a entendu parler de l'armée du salut, mais personne ne la connaît. » Parce qu'effectivement, le nom armée du salut est très connu. Notre logo, le Red Shield, est aussi très connu.
C'est quoi le Red Shield?
C'est notre bouclier rouge sur lequel il est marqué armée du salut, qu'on voit en principe sur tous nos bâtiments.
Mmh. Sur vos épaulettes.
Exactement. Mmh. Donc, tout le monde connaît ça, connaît l'armée du salut, mais du fait qu'on est sur beaucoup de champs différents, fait que personne ou peu de gens savent ce qu'on fait. C'est la discussion qu'on a avec tout nouveau salarié quand on lui dit « Est-ce que tu connais l'armée du salut ?» Il dit « Avant de venir, je connaissais le nom, mais j'avais aucune idée de ce que vous faisiez. » Donc, et puis après, il y a peut-être aussi un petit côté protestant, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fasse, et on n'est pas toujours très bon, et ça me gêne pas trop, on n'est pas toujours très bon dans notre pour se vendre. Mais je préfère qu'on fasse du bon travail en étant peu connu que d'être très connu en faisant du mauvais travail.
Alors, on va arriver à la conclusion. Vous faites partie de la Fédération protestante de France. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de la Fédération? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous y apportez? Enfin, beaucoup de questions en une.
Oui, oui.
Est-ce que ça a beaucoup d'importance pour vous, d'abord ?
Alors, je pense que ça en a eu beaucoup au moment où on est entré dans la fédération, parce que justement, c'était encore une période où certains nous voyaient comme une secte. Donc, ça nous donnait certainement une forme de reconnaissance et de légitimité. J'ai envie de dire, tout partenariat est riche et intéressant. La fédération est un vrai soutien pour nous. On a un certain nombre de nos officiers qui sont des officiers africains. La fédération nous soutient pour qu'ils puissent venir en France. Les réflexions de la fédération sont des réflexions que nous faisons, et on est souvent mieux ensemble pour les faire que tout seul dans son coin. Après, on n'est pas actuellement au CNEF, mais on a un côté évangélique.
CNEF, c'est évangélique.
C'est les évangéliques. Maintenant, un tiers, enfin, même plus aujourd'hui, un tiers des membres de la Fédération protestante sont des évangéliques. Oui. Donc,
les autres protestants, donc, de la Fédération protestante de France, ils peuvent vous aider, notamment par les dons, parce que vous avez besoin de beaucoup d'argent pour toutes ces actions en faveur des pauvres.
Oui. Alors, que ce soit la fondation ou la congrégation, oui, nous avons besoin d'argent, et aujourd'hui, c'est un vrai défi avec la situation financière de l'État, et on sent vraiment les financeurs pour qui ça devient toujours plus compliqué, donc et les besoins qui sont au contraire en augmentation, donc il y a un vrai défi de ce côté-là. L'argent que nous recevons de la générosité du public nous donne aussi beaucoup de liberté pour les actions, alors que l'argent qu'on reçoit de l'État est très clairement défini par rapport à des missions très précises. Et si on veut être, je crois que c'est aussi notre appel, si on veut être présent dans les trous du filet, souvent ça commence pas avec du financement public, mais oui, avec du financement privé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, quoi.
Et je précise que les dons qu'on fait sont déductibles des impôts à hauteur de
75% pour la fondation, oui, et 66% pour la congrégation.
Donc les auditeurs qui nous écoutent peuvent faire un geste en faveur de l'Armée du Salut. Alors, je vous remercie, colonel Jacques Donzé, d'avoir été avec nous.
Merci.
Et puis, je rappelle donc que vous êtes le président du conseil d'administration de la Fondation de l'Armée du Salut, oui, et de la Congrégation de l'Armée du Salut. Je remercie aussi Benjamin Borriès et son équipe de production. Et puis, je signale qu'on peut trouver plus d'informations sur votre site internet. Donc, allez voir armeedusalut.fr.
Qui va être renouvelé cet été. Donc, allez le voir maintenant et retournez le voir en septembre. Il sera tout changé.
Et voilà. Et n'oubliez pas de mettre votre obol pour toutes ces actions. Eh bien, merci à nos auditeurs et à bientôt pour découvrir une nouvelle facette de Protestants au pluriel.
Protestants au pluriel. Des convictions qui dialoguent. Un engagement qui résonne.